Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe. Je suis ravi de vous retrouver, car justement notre thématique du jour, elle est très très itinérante. Il est question de mouvement, de course, de circuit, de pistes, de paddock, de vitesse, de dépassement, dépassement de soi, dépassement des autres. Enfin la F1 est de retour. Premier Grand Prix de la saison hier et premier succès pour l'intouchable Max Verstappen. Le taureau rouge est-il de nouveau trop fort pour le cheval noir de Ferrari et la voiture rouge toujours de Ferrari ou pour la Mercedes de Lewis Hamilton? Faut-il déjà faire une croix sur le suspense cette saison? C'est ce que nous verrons. Après tout, c'est peut-être sur Netflix que la Formule 1 raconte le mieux ses histoires d'aujourd'hui. La F1 régulièrement aussi passionnante à suivre au cinéma ou sur les plateformes qu'à la télévision en direct. Rares sont les disciplines sportives qui peuvent en dire autant. Mondial Sport, top départ.
Max Verstappen vient s'imposer dès ce premier Grand Prix de la saison et peut déjà zigzaguer bien, bien avant la ligne d'arrivée où il est attendu et salué par son équipe. Victoire de Max Verstappen, le doublé assuré dans 22 secondes par Sergio Perez. Le feu d'artifice a déjà commencé alors que les pilotes continuent pour certains de batailler en piste. Le voici, Sergio Perez, un petit peu moins bien placé sur la grille, mais le rythme en course de la Red Bull lui aura permis de remonter.
La voiture est impressionnante, les pilotes ont fait le job, mais le pilote du jour pour moi, ça a été Sainz.
Troisième place pour lui, le podium de Ferrari grâce à Carlos Sainz, sa quatrième place à venir de Charles Leclerc. Il a passé la ligne tout comme George Russell, cinquième, Norris, sixième, Hamilton, septième. Il y a forcément un peu de déception parce qu'on s'attendait à un meilleur rythme des Mercedes en course et notamment de celle d'Hamilton.
Simply lovely. What a great race. Absolutely fantastic.
L'hymne néerlandais hier, à l'issue du premier Grand Prix de la saison Bahreïn, le succès de Verstappen, triple tenant du titre, devant son coéquipier chez Red Bull, le Mexicain Sergio Perez. Les deux Ferrari suivent, Sainz 3e, Leclerc, le Monégasque 4e pour Mercedes, vous l'avez entendu, et notamment pour Hamilton, c'est moins bien. Classement parfaitement résumé, relaté, décrit par nos confrères de Canal+. La grille de départ de Mondial Sport sur RFI à présent, que des pole positions dans ma team. Emmanuel Touzeau, bonjour.
Bonjour Hugo.
Vous êtes journaliste spécialisé, auteur. Les 100 choses que tout fan de F1 doit savoir avant de mourir, c'est un livre, ça arrive très bientôt en librairie chez Talent Édition. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de passer en revue les 100 choses, il faudra faire des choix, mais promis, on lira ça attentivement. Gaël Angleviel dit gazou sur X ou sur Twitter, bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour les auditeurs.
Max Verstappen, la rage de vaincre, c'est chez City Edition, ça aussi c'est à lire et ça va bientôt paraître, je dis pas de bêtises.
Et c'est ça, tout à fait, à la fin du mois.
C'est plutôt bien vu, vous voilà conforté dans votre angle, votre sujet après la course d'hier, a priori il sera toujours valable dans quelques mois votre ouvrage.
Il sera plus que jamais d'actualité.
Bon bah c'est bien, c'est ce qui s'appelle avoir le nez creux, même si, encore une fois, Verstappen qui domine les débats, on va en parler, c'est plutôt facile à voir. Même moi je m'en suis rendu compte, c'est dire. Mon copilote en studio, Patrick Juillard, bonjour Patrick.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Je n'ai plus besoin de vous présenter auprès des auditeurs de RFI, de Radio Foot. Vous n'aimez pas que le ballon rond, la F1 c'est aussi votre dada.
J'aime plein tout ce qui
choses.
Roule.
Vous aimez aussi la musique, le cinéma, et on parlera justement F1 musique et surtout cinéma. Tout à l'heure.
From France, Yves Montand as Jean-Paul Sartre.
There is no terrible way to win. There is only winning.
And introducing French singing star Françoise Hardy as Lisa.
I'm leaving you.
Leaving? For how long?
For always, you fool. Forever.
The excitement of Monaco, Spa, Zandvoort, Monza is Grand Prix.
There is no terrible way of winning. Grand Prix, film de 1966, BO très...
There is 60s. A terrible accent by Yves Montand.
Yves Montand et Françoise Hardy. Voilà, c'est le choix de Gaël Anglevial. On connaîtra ceux d'Emmanuel Touzeau et de vous, Patrick Juillard, tout à l'heure. La F1 en 24 images par seconde, ça marche pas mal. La course automobile, globalement, au cinéma, surtout ces dernières années, ça marche aussi pas mal sur Netflix. Et puis, il y a Ferrari, film du légendaire Michael Mann qui débarque bientôt sur les plateformes en France. Mais Mondial Sport, ce n'est pas une ligne droite. Il faut emprunter beaucoup, beaucoup de virages. Avant de parler Formule 1, il y a le reste de l'actualité sportive. D'abord, l'athlétisme, les championnats du monde en salle, à Glasgow, sous les yeux de Frédéric Suteau. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour Hugo, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. I live, always, forever.
Ouais. Clap de fin.
À la bande-annonce, là.
Ça vous a plu, ça. Yves Montand, ça vous a plu. Clap de fin dans les prochaines heures de l'athlétisme, les championnats du monde en salle. On suit ça d'un œil particulièrement attentif. On est à quelques mois des JO de Paris. Ce soir, ce sera la finale de la perche. Armand Duplantis, le Suédois, Thibaut Collet, le Français. Il y aura également Noélie Garrigaud, la Béninoise, en finale du 800 mètres féminin. Mais Frédéric, aujourd'hui dans Mondial Sport, on va parler du point d'orgue de ce week-end écossais, le titre mondial pour l'un de nos chouchous, Hugues Fabrice Zango, le Burkinabé sacré, champion du monde de triple saut. Alors sans faire les blasés, on peut dire qu'on l'avait vu venir sur les antennes de la Radio du Monde.
Oui, et ça n'a pas été la liesse, l'effervescence, même dans le clan Zango. Hier, Hugo, après ce nouveau titre mondial, hein, le premier, c'était l'été dernier à Budapest, en plein air, les championnats du monde. Hugues Fabrice Zango, là, il avait fêté ça comme il se doit, sachant que dans les années passées, il y avait déjà eu du bronze, de l'argent mondial, mais jamais de médaille d'or. Et hier, pas d'effervescence, oui, bon, il y a eu le drapeau burkinabé sur les épaules, le tour d'honneur, mais il le reconnaissait lui-même, c'était peut-être pas une formalité, mais en tout cas c'était une étape sur la longue route qui doit le mener aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Et son entraîneur Teddy Tamgo, français, ancien champion du monde lui aussi du triple saut, hein, c'est un sacré duo tous les deux, Yves Fabrice Zango et Teddy Tamgo, il avait le même discours en disant on est arrivé ici à Glasgow en ne faisant pas de ce titre mondial une fin en soi. Oui, bien sûr, c'était important de gagner pour marquer son territoire, pour confirmer son statut, mais on est en pleine période de travail physique, travail technique, où on change quelques petites choses, donc c'est assez normal de voir un Hugues Fabrice Zango qui va un peu moins loin que ce qu'il a déjà fait, mais qui est capable, quand le concours se durcit un petit peu, bien de sortir le saut qu'il faut pour gagner le concours, et c'est ce qu'il a fait hier, puisqu'il n'était que deuxième après 4 essais, hein, c'est Mohamed Triki, l'Algérien, qui menait le bal, avec 17-35, et puis là, il y a eu 5e essai, Hugues Fabrice Zango, pam pam pam, triple saut, triple bond, 17-53, en balai pesé, champion du monde, en salle et en plein air.
Mais ce qu'il n'a qu'en tête, Hugues Fabrice Zango, c'est les Jeux de Paris, Frédéric Suteau, ça arrive vite, l'été prochain, et ce sera peut-être un tout petit peu plus relevé qu'à Glasgow.
Oui, ce sera forcément plus difficile, déjà parce qu'il s'agit des Jeux Olympiques, et là tout est différent, tout est démultiplié, le contexte, la pression, là oui, il s'agit de championnats du monde, mais championnats du monde en salle, on est à Glasgow, il y a 5000 spectateurs dans la salle, c'est le petit microcosme de l'athlétisme, alors on retrouvera globalement les mêmes athlètes, mais dans le contexte du Stade de France, 80 000 personnes, et il le dit lui-même, il n'y a pas un jour, pas une heure sans doute, où dans son esprit, il n'y a pas une petite lumière qui s'allume et qui lui fait penser à ces Jeux Olympiques de Paris. Hein. Il a déjà connu le bronze olympique à Tokyo en 2021 et pourtant il avait annoncé la couleur en disant qu'il venait pour gagner à Tokyo. Hein. Il avait été devancé par Pedro Pichardo, notamment le Cubain naturalisé portugais. Donc ce sera plus difficile parce que le contexte, mais aussi parce qu'il y avait ici à Glasgow, mais aussi à Budapest l'été dernier, quelques absents de marque. Pedro Pichardo, le champion olympique, on vient d'en parler. Il sera sans doute remis sur pied pour pour l'été à Paris. Christian Taylor, champion olympique, les deux Olympiades précédentes, hein, lui 2012-2016, l'Américain, il n'a pas dit son dernier mot, il espère être remis sur pied. Des Cubains qui étaient absents ici à Glasgow, il y en a d'autres. Et puis vous avez aussi Jaden Ibert, c'est le jeune Jamaïcain, 19 ans seulement. L'an passé, il a sauté 17 mètres 87, c'est énorme comme saut. Il était encore junior et il s'était blessé à Budapest lors du premier essai. Il n'avait pas pu avoir le mano à mano avec Hugues Fabrice Zango. Donc oui, forcément, ce sera plus difficile pour lui d'aller chercher ce titre olympique.
Les dernières questions dans ce microcosme de l'athlétisme dont vous parliez. C'est une star, c'est établi pour Hugues Fabrice Zango, Frédéric Suto.
Oui et non, c'est une star, il est champion du monde, double champion du monde, on vient de le dire, mais vous en avez beaucoup, hein, dans l'athlétisme, il y a beaucoup de disciplines, et hier, en l'attendant dans la zone d'interview, je regardais un petit peu ce qui se passait au-dessus de moi, parce que vous avez les télés qui mettent beaucoup d'argent là, qui sont prioritaires, les télés américaines, britanniques, il y avait toutes les télés du monde qui étaient là, et on ne l'a pas arrêté, Hugues Fabrice Zango, là où la veille, Noah Lyles, les sprinteurs ont passé de longues minutes à répondre aux questions, les sprinteuses également, vous avez Femke Bol, la néerlandaise qui a battu hier le record du 400 mètres, qui est une véritable star, où là vous avez vraiment une grappe, une nuée de journalistes. Hugues Fabrice Zango, il est arrivé jusqu'à nous presque tranquille. Alors plusieurs raisons à cela, sa discipline, hein, le triple saut, ce n'est pas la plus médiatique de l'athlétisme, et puis Hugues Fabrice Zango, il n'a été qu'une fois champion du monde pour l'instant, donc il faut asseoir ce statut, ce n'est pas encore Jonathan Edwards, le Britannique qui avait sauté à 18m29 il y a une trentaine d'années de cela, ce n'est pas encore Christian Taylor, mais il va écrire l'histoire encore plus cet été à Paris.
Sous vos yeux, j'en suis certain, Frédéric Suto à Glasgow en attendant pour les Mondiaux d'athlétisme en salle. En football, le dénouement de la phase de groupe des Coupes d'Afrique de clubs, une seule équipe africaine francophone verra les quarts de finale en Coupe de la Confédération, le Stade Malien, qui sera opposé à l'autre leader et l'autre équipe qualifiée de sa poule tout à l'heure, la Renaissance de Berkane en Ligue des Champions. La phase de poule s'est achevée hier. La surprise, c'est l'élimination du Wydad Casablanca au profit des Tanzaniens de Simba. C'est dans le groupe de l'ASEC d'Abidjan. L'ASEC qualifié en compagnie des Congolais du TP Mazembe, quintuple champion d'Afrique, mais qui se sont inclinés hier en Afrique du Sud contre les Mamelodi Sundowns. C'était là aussi une affiche de gala avec la première place en jeu. Donc, elle ne sera pas pour Mazembe, mais les fans savourent les retours réussis de leur club au plus haut niveau continental africain. Et puis le retour d'un coach très apprécié, le Sénégalais Lamine Diaye, Romain Chanson en Afrique du Sud.
Ce match avait commencé avec beaucoup d'espoir, exprimé par près de 200 supporters congolais comme Jean-Paul Claude Manza et Michel-Ange Katagondois.
Je sais que nous allons les battre. Parce qu'en fait, c'est que chez nous, l'impossible n'est pas Mazembe.
Nous voulons vraiment prendre la première place du groupe aujourd'hui. Nous croyons que nous allons gagner Mamelodi Sundowns ici, mais non seulement gagner Mamelodi Sundowns ici, nous allons aussi gagner la Ligue des champions de la CAF.
Mais à la 37e minute, le capitaine des Corbeaux, Kevin Mundeko, tacle un joueur sud-africain dans la surface et concède le pénalty. Ce sera le seul but de la rencontre, défaite du TP Mazembe. Les Corbeaux sont quand même qualifiés et si le parcours continue, c'est aussi grâce à l'entraîneur Lamine Diaye, très apprécié par Michel-Ange.
Oui, il fait l'unanimité, c'est pour moi le meilleur coach que le TP Mazembe a eu depuis l'avènement du nouveau président Moïse Katumbi à la tête de l'équipe. Donc nous croyons que nous allons encore rééditer l'exploit que nous avons réédité avec lui dans les années 2010.
Lamine Diaye avait remporté la Ligue des Champions en 2010 avec le TP Mazembe, puis était allé en finale de la Coupe du Monde des clubs la même année. Moïse Katumbi, le président du club, est très satisfait de son retour.
C'est un bon choix, on avait Lamine Diaye, nous sommes allés en finale avec lui. Il y a eu quelques couacs dans le temps avec les supporters de Mazembe, mais j'avais beaucoup regretté. C'est un bon entraîneur pour moi, j'ai beaucoup de respect pour lui.
Ses plus grands succès ne datent pas d'hier et à 67 ans, le coach sait que sa carrière tend vers la fin, alors il veut en profiter et donner le meilleur de lui-même.
J'avance quand même en âge, Et il faudra bien passer le témoin un jour ou l'autre. Donc je prends du plaisir les matchs voilà, qui me restent à jouer. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis un peu en colère, parce que quand on est sur un terrain, on doit se livrer à fond.
Cette règle, il faudra l'appliquer lors des prochains quarts de finale pour espérer réitérer l'exploit de 2010 et remporter la Ligue des Champions. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
Voilà pour les autres sports. La F1, tout de suite dans Mondial Sport sur RFI. Avant, on va écouter quelques notes de musique. Is it you? Est-ce que c'est toi, CK, dans Mondial Sport? Combo, I can't get over you. I can't get over you. I am sexy, very expensive. I am willing to pay the price. Spend my money and spend my time. I need sexy, interesting. Many fish in the ocean. For me, I want that one. Personal. Carry my kill the show. Join our whiskey the call. Carry my money and go. I need a girl to ride, ride, ride. Be my peace, don't kill my vibe. Is it Joe? 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 Yo, I hope it's your. You're the one I want. Been running away from love for so long. When I met you, I reached my last bus stop. Last bus stop. Oh, wow. I need sexy, interesting. Many fish in the ocean. For me, I want that one. Personal. Carry my kill the show. China is pretty cold. Carry my money and go. Mais oui, c'est bien nous, c'est bien vous Patrick Juillard, c'est bien Mondial Sport sur RFI, la Formule 1 au sommaire, avant toute chose le portrait, la visite d'un lieu dédié aux amoureux des bolides, ceux qui aiment la bagnole, promis vous n'y croiserez pas un certain Emmanuel M. Plutôt des potes venus assister au Grand Prix du Championnat du Monde, le ravitaillement est assuré, il faut dire que ce lieu c'est un bar, c'est dans le sud de Paris. Et c'est là que Baptiste Leduc a suivi le premier Grand Prix de la saison hier.
Des baquets de monoplace pour siroter sa bière, des moteurs Ferrari et Renault exposés un peu partout, et même deux simulateurs pour s'essayer au pilotage, l'Auto Passion Café dans le 14e arrondissement de Paris, et depuis 24 ans un véritable musée où se pressent les amateurs de sport automobile les jours de Grand Prix.
On a réservé il y a plus d'une semaine, on a préféré réserver à l'avance.
Maxime a préféré prendre ses précautions pour s'assurer une place assise avec les camarades de son association de karting. Bien leur en a pris, le bar est bondé pour assister à la victoire de Max Verstappen, le chouchou de Myriam. Tout sourire, elle en profite pour admirer le décor.
Ouais, enfin c'est vachement cool. Le décor, il est incroyable, il y a plein de petites voitures qui se baladent. Enfin, nous, c'est surtout pour ça qu'on est venu là, en fait.
Pas de suspense en piste, mais qu'à cela ne tienne, vivre sa passion au milieu d'un public de connaisseurs suffit au bonheur de Jam, étudiant turc récemment arrivé à Paris.
La culture de F1, c'est vraiment différent en Turquie parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent les courses, des choses comme ça. Mais quand je viens ici, je me sens à l'aise avec les gens différents et il y a des gens qui viennent de différents pays aussi. Et je suis vraiment content d'avoir cette atmosphère-là.
En levant les yeux, il s'extasie devant la pièce maîtresse de l'Autopassion Café, une Formule 1 grandeur nature suspendue au plafond, Peinture impeccable et pneus chaussés.
Ouais, c'est une Kubica Petrov de 2010, Renault.
Vincent Durand, propriétaire des lieux.
C'est une voiture qui appartient à Renault, on est sous contrat avec Renault. Donc celle-là, on l'a mis au plafond, donc c'est un peu la pièce qui bouge jamais.
Les fins connaisseurs sauront que cette voiture a donc connu 3 podiums en Formule 1 dans les mains du Polonais Robert Kubica en 2010. Une pièce de choix, mais Vincent Durand le sait, ce n'est pas elle qui explique la hausse de fréquentation de son établissement ces dernières années.
C'est assez marrant, avant la série Netflix, on avait peut-être 30 personnes qui se battaient en duel pour venir voir la F1. Et là, depuis, c'est plein, on refuse quoi. Enfin, chaque Grand Prix, on refuse parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de monde.
Netflix et sa série sur la F1 ont créé une nouvelle génération de passionnés dont Julien fait partie.
J'avais repris un petit peu avant, mais en fait Netflix m'a replongé complètement dedans. Et c'est clair qu'ils ont fait un beau travail sur les quelques premières saisons. Je suis moins fan, j'ai arrêté de regarder, mais franchement, ouais, je me suis clairement remis dedans grâce à Netflix. Hein.
Avec son ami, il se mêle aux discussions. Hamilton chez Ferrari la saison prochaine, la domination Verstappen. Puis peu à peu, l'autopassion café se vide sous les notes de l'hymne néerlandais dont certains commencent à se lasser.
Netflix, un jeune Turc qui nous rappelle qu'on ne suit pas la F1 avec la même intensité dans tous les pays. Plein de pistes à suivre dans l'excellent reportage de Baptiste Leduc. Patrick Juillard a noté l'adresse. D'abord, on va demander à nos autres invités, Emmanuel Touzeau, Gaël Anglevielle. Rebonjour messieurs, journaliste et auteur passionné. Ce que vous avez pensé de la victoire de Verstappen et de Red Bull hier à Bahreïn. Emmanuel Touzeau.
Bah, clairement c'était une démonstration comme on l'attendait un peu après les essais hivernaux. Le double problème pour la concurrence, c'est non seulement que Red Bull a un peu d'avance, mais surtout que Verstappen a beaucoup d'avance sur l'autre Red Bull. Et en fait le fait de rattraper Perez ne sera pas une garantie de rattraper Verstappen, donc dans tous les cas il part avec une avance qui est déjà très nette par rapport à la concurrence. Et que ce soit en rythme de qualif, c'était pas évident parce que Leclerc a fait mieux en Q2 que le temps de Verstappen en Q3, donc il y a un espoir sur un tour de voir la pole se jouer avec d'autres équipes. Mais en rythme de course, on a vu que quand le DRS était disponible le deuxième tour et Verstappen a réussi à se mettre à plus d'une seconde dès le premier tour pour l'éviter. Et après le deuxième arrêt, il a réussi à mettre directement 2 secondes de tour à Perez et Sainz sur son premier tour rapide après le tour de sortie, alors qu'il avait les mêmes pneus que son équipier. Donc on voit qu'il y a quand même un monde entre Verstappen et les autres.
Il y a aussi un monde entre le langage des initiés de la Formule 1 et les non-initiés, mais on sent bien toute la technicité de votre analyse, Emmanuel Touzeau, et on comprend bien Patrick Juillard, donc l'affaire, c'est que c'est trop dur là, pour la concurrence. Dur, hein. Même quand Ferrari, donc Leclerc et Sainz et Ferrari, ils font des bonnes choses, mais c'est pas suffisant.
Oui, mais on sent que le championnat est en train de se polariser. C'est assez paradoxal, parce que si on regarde les essais, la dernière... La séance d'essai, il y a à peine une seconde entre la voiture la moins bien classée et la meilleure. Alors qu'en course, les 10 premières places sont occupées par 5 écuries uniquement. Donc ça se polarise beaucoup en course. Et c'est en course qu'on voit les écarts dans le développement des voitures, dans la mise au point. Et la seule équipe qui est déjà, qui paraît déjà 100% au point, c'est Red Bull. Et même le maillon faible de l'écurie, c'est-à-dire Sergio Perez, le deuxième pilote, qui avait eu de sacrés coups de mou la saison dernière, cette année, sur ce Grand Prix, il était aussi à la hauteur. Donc ça ne laisse rien aux autres.
Gaël Anglevielle, tout va bien chez Red Bull, si j'ai bien compris, côté pilote, côté mécanique. Mais en coulisses, c'est un petit peu différent. Donc le boss, Christian Horner, a été pris dans une affaire extra-sportive, si je puis dire, dernièrement. Il semblait s'en être sorti, mais là, coup de théâtre, le père de Max Verstappen, Jos Verstappen, je crois, réclame presque à demi-mot son départ, le départ de Christian Horner, donc le boss de son fils. Donc là, on a un psychodrame à Red Bull. Le seul ennemi de Red Bull, c'est Red Bull, c'est ça ?
Le meilleur ennemi de Red Bull cette année, ça pourrait être Red Bull. Effectivement, c'est vrai que la F1, quand elle se dispute pas sur la piste, elle peut effectivement avoir quelques petits démêlés dans le paddock. Et là, effectivement, ce début de saison 2024 a débuté par cette affaire qui peut-être est loin d'être réglée, même si Red Bull a diligenté une enquête interne et a conclu en fait à, pas un non-lieu, mais a blanchi Christian Horner en fait. Donc on pensait que cette histoire était derrière nous, enfin derrière eux plus précisément. Et finalement, rebondissement pendant le week-end du Grand Prix, quelques fichiers ont été envoyés anonymement à la plupart des journalistes dans le paddock, également aux employés de la Formule 1. Alors, tout ceci reste encore de l'ordre pas du spéculatif, mais il faudra peut-être authentifier ces pièces, il faudra effectivement faire la lumière sur toute cette histoire, mais déjà, on a les premières tensions qui apparaissent, et effectivement, dans le clan Verstappen, Jos, le père de Max notamment, qui aimerait effectivement écarter Christian Horner, qui est le directeur de l'équipe.
Emmanuel Touzeau, ce côté, il n'y a pas de suspense pour la course au titre, c'est finalement un refrain qui, j'ai l'impression, revient régulièrement en Formule 1, et on arrive parfois à le relancer en ayant comme ça des évolutions sur le règlement, par exemple, ou quand on change des choses qui font qu'une voiture ou une écurie va perdre un peu son avantage structurel. Parce qu'il y a peut-être cette dimension-là aussi à expliquer aux auditeurs, c'est que la technologie joue une grande part dans ce sport qui est la Formule 1. Et quand vous avez de l'avance en termes de technologie comme Red Bull, bah c'est compliqué pour les autres. Il n'y a pas que le pilote et son talent, il y a le fait que la voiture, bah, elle est meilleure que les autres.
C'est ça, en fait, la Formule 1, contrairement à tous les autres sports, n'a pas soit de voiture commune à tous les pilotes, soit de système pour compenser. Enfin, la F1 a mis récemment des systèmes pour compenser les performances avec des handicaps de développement pour les meilleures équipes, avec un plafond budgétaire pour les équipes. Mais malheureusement, entre guillemets, c'est des choses qui sont arrivées début 2022 en même temps qu'une nouvelle réglementation. Et comme souvent avec les nouvelles réglementations, les équipes font mieux. Et là, c'est vrai que c'est une réglementation qui favorise en fait le département technique de Red Bull, parce qu'ils ont des ingénieurs qui sont très très bons et qui ont réussi à vraiment mettre le doigt sur quelque chose. Et du coup, depuis le début 2022, alors Ferrari a fait un petit peu illusion en tout début de réglementation, mais ça n'a pas duré parce qu'ils ont moins réussi à développer la voiture. Et c'est vrai qu'on a là une nette domination de Red Bull qui a pris des risques cette année, puisqu'ils ont, en fait, on a une réglementation qui a commencé début 2022, qui finit fin 2025, et ils ont refait intégralement leur voiture cette année pour pouvoir avoir une meilleure plateforme en fait pour développer jusqu'à fin 2025. Parce qu'après, en 2026, on a une toute nouvelle réglementation avec de nouveaux moteurs, donc là, les cartes seront sûrement redistribuées. Mais d'ici là, c'est vrai qu'on a, y a un avantage de Red Bull. Alors après, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas rattraper. On a vu l'an dernier des équipes comme Aston Martin ou McLaren qui ont fait des gros bonds en avant. Si Mercedes ou Ferrari, par exemple, arrivaient à faire la même chose, ou même McLaren ou Aston Martin, on pourrait très bien avoir des équipes qui viennent se mêler à Red Bull. Mais pour l'instant, on repart comme l'an dernier avec une équipe Red Bull qui a toujours un coup d'avance sur la concurrence. Une concurrence qui essaye en fait un peu de copier ses solutions techniques, parce qu'elles sont très très bonnes. Donc il y a une espèce de convergence des solutions. Simplement, qui normalement apportent une convergence.
Emmanuel Touzeau, la concurrence, on est d'accord, elle se résume à deux écuries. Ferrari et Mercedes dans cet ordre ou non?
Oui, plutôt dans cet ordre. Ferrari était quand même nettement la deuxième force hier. Mercedes n'est pas loin, mais il ne faut pas sous-estimer McLaren qui était très très proche de Mercedes sur un circuit qui ne lui convient pas. Et par contre, Aston Martin semble un peu plus loin que l'an dernier, alors que l'an dernier, ils étaient presque deuxième force en début de saison. Mais là, oui, clairement, c'est Ferrari pour l'instant qui serait la plus proche et qui n'a pas eu un week-end très facile. Donc peut-être qu'avec un week-end plus facile pour eux, ils seraient un peu plus proches de Red Bull.
Patrick Juvin, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Je précise juste, parce qu'on va en parler, il a terminé assez loin hier, mais il y a un homme qui fait la jonction entre Mercedes et Ferrari. Il passera de l'un à l'autre l'année prochaine.
C'est pour ça que j'étais pas d'accord, parce que l'annonce pendant l'intersaison du prochain transfert de
Lewis Hamilton
chez Ferrari, par notamment sa longue amitié avec le team manager de Ferrari, Frédéric Vasseur, je pense que ça va donner une ambiance un peu de fin de règne à cette équipe Mercedes, et je suis pas certain que ça soit très bon pour l'émulation entre les deux pilotes, s'il y en a l'un des deux qui sait déjà qu'il n'y sera plus la saison suivante. Donc moi, je pense plutôt que Mercedes n'est pas assuré d'être la troisième force du plateau. Je pense que c'est beaucoup plus ouvert que ça, mais je suis en revanche d'accord pour dire que Ferrari a un petit coup d'avance sur les autres poursuivants.
Lewis Hamilton, on pense que tout le monde sait qui est Lewis Hamilton, mais il approche de la quarantaine. Certains de nos jeunes auditeurs ne l'ont peut-être pas
Afrique,
vu.
En Afrique, il est très connu.
Ne l'ont peut-être pas vu remporter ses premiers Grands Prix et sa première victoire en championnat du monde, 2008. Ça commence à remonter. Lewis Hamilton, donc, il va passer de Mercedes à Ferrari la saison prochaine, co-détenteur du nombre de victoires en championnat du monde, du record de victoires en championnat du monde avec Michael Schumacher. 7 couronnes en tout pour Lewis Hamilton. Gaël Angleviel, hier, il n'a pas très bien fonctionné, Lewis Hamilton. Ça reste quand même l'un des coureurs à suivre cette saison, en plus, évidemment, de Verstappen, le tenant du titre et archi-favori.
Oui, complètement. On ne peut pas tout à fait écarter Lewis Hamilton, même si, effectivement, la Mercedes, aujourd'hui, a un petit peu plus de mal. C'est quand même un septuple champion du monde qui sait toujours fédérer une équipe autour de lui, qui a toujours, évidemment, ce talent. Donc, s'il y a quelque chose à extrapoler de la voiture, Lewis Hamilton va pouvoir le saisir. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le seul but de Lewis Hamilton, c'est la Formule 1, sa vie, c'est la Formule 1. C'est-à-dire que demain, on le sait, il va signer chez Ferrari en 2025, mais ce pilote ne se voit pas ailleurs dans une autre catégorie. Bon, aujourd'hui, il a 39 ans, il va courir encore sûrement 2 années chez Ferrari, peut-être un petit peu plus, on verra, mais à contrario de Max Verstappen qui a plusieurs fois répété que plus tard il aimerait faire du GT, de l'endurance, les 24 heures du Mans, il ne se voit pas enfermé dans la Formule 1. Lewis Hamilton, lui, ne jure que par ça, peut-être aussi un petit peu à l'image de Fernando Alonso qui a 42 ans et qui roule toujours et qui est toujours très performant. Donc on a quand même là un pilote qui est l'assurance vie d'une écurie. Effectivement, si Mercedes aujourd'hui est un petit peu en retrait en termes de performance, clairement, avoir Lewis Hamilton encore dans ses rangs, c'est quand même très sécurisant et ça va pouvoir aussi permettre à Mercedes de maximiser toutes leurs chances et de pouvoir remonter un petit peu en haut de la hiérarchie.
Et pour Ferrari, c'est un vrai pari sportif ou c'est un pari aussi en termes d'image parce que c'est la grande star, c'est celui qui est le plus connu dans le grand public. Et puis ça, est-ce que ça dépoussière pas un petit peu l'image Ferrari aussi d'avoir un Hamilton ?
Lewis Hamilton, il a amené, outre son coup de volant et son talent fabuleux, il a amené des publics qui ne s'intéressaient pas beaucoup à la Formule 1 à s'y intéresser davantage. Je pense à l'Afrique où, pour y voyager souvent, c'est de loin le pilote le plus connu et le plus apprécié sur ce continent. Et il a amené aussi peut-être une sensibilité à des problématiques qui étaient pas encore qui intéressaient pas encore tellement les pilotes de Formule 1.
Black Lives Matter, par
Black
exemple.
Black Lives Matter, la diversité. Donc tout ça, je pense que alors pour le public des fans de longue date de F1, ça ne les bouleverse pas forcément, mais pour le grand public qui a découvert la F1 avec les documentaires Drive to Survive, je pense
de
que
Netflix,
c'est le personnage un petit peu dominant et la pierre angulaire de ce circuit fermé de la F1.
Pilote de couleur, Lewis Hamilton, le Britannique, est militant, vous le disiez, star sur le continent, et tout simplement militant du retour de la F1 en Afrique. La dernière fois qu'il y a eu un Grand Prix en Afrique, 1993, il avait 8 ans à peine, Lewis Hamilton. Qui s'était imposé ? Est-ce que quelqu'un le sait ? 93, en Afrique du Sud ? Cocorico, c'est un certain Alain Prost qui avait remporté le Grand Prix. On écoute Lewis Hamilton qui nous parle du continent africain. Il s'est souvent exprimé sur le sujet ces dernières années.
It's the place that it's the continent I wanted to go and visit. Whilst I've been there before, it's the place I wanted to go more than anywhere. And I got to obviously travel in lots of different places. It was incredible how welcoming everyone was, and it was a very grounding experience, you know, to see the incredible landscape and the different countries that we went to, and didn't seem like they took anything for granted, which was really quite beautiful to see. The next one I've been talking about is South Africa, and that's what I'm pushing for in the background, so hopefully you'll see that come to light soon as well. And that's a real big dream for me to have raced in South Africa and in Africa during my career is a huge, huge dream for me. So I know we have a big following out there. Well, I have a big following out there, and I know a lot of people are into Formula One now there. So I'm pushing as hard as I can in the background. I'm going high up to make sure we have that race happen.
Hamilton en anglais, hein, je vous l'ai laissé tel quel, il partage et c'est communicatif son amour pour l'Afrique, il veut aller en Afrique du Sud, c'est un rêve. C'est le seul continent qui manque à la F1, selon lui. 24 Grands Prix hein, cette saison, c'est un record. Et aucun sur le continent africain. Lewis Hamilton, qui a récemment voyagé, on a entendu un extrait d'une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, récemment voyagé en Afrique, il adore, c'est un endroit où il a envie d'aller. Il a vu le Rwanda, la Namibie, le Kenya. L'Afrique du Sud, donc le Maroc, pourrait aussi être une possibilité pour la Formule 1. Emmanuel Touzeau, puisque des dirigeants de la F1 sont allés inspecter un circuit au Maroc en 2022. Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que c'est une vraie tendance forte, le fait de revoir la F1 en Afrique dans les prochaines années?
Alors oui, c'est une tendance forte. Ils veulent vraiment retourner en Afrique. Alors effectivement, le Maroc a été sondé. Bon, ils avaient des compétitions il n'y a pas longtemps de super tourisme, mais donc c'est une voiture plutôt classique de course. Mais accueillir la F1, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est vrai que le pays qui se place le mieux, c'est Kyalami en Afrique du Sud. Mais ça, c'est circuit du moins. Mais le problème, c'est que après, c'est toujours aussi une question d'argent, une question de promoteur. Et malgré le fait que la F1 veuille vraiment retourner en Afrique, pour l'instant, il n'y a pas de, c'est un peu au point mort. Donc, c'est pas gagné. Mais de toute façon, c'est une volonté. Et on pense que avec l'évolution du calendrier, à terme, dans les 4-5 ans, ce sera quelque chose qui sera remis sur la table avec l'objectif de retourner, soit en Afrique du Sud, peut-être ailleurs, mais. L'Afrique du Sud a déjà un circuit qui pourrait répondre aux exigences de la F1, notamment en matière de sécurité. Donc, ça aide forcément à en faire la priorité. Et ça pourrait être dans les 5-6 ans à venir. Quoi.
Gaël Anglevielle, pour rebondir sur ce que disait Patrick Juillard tout à l'heure. Hamilton, il a peut-être un petit peu rajeuni. Enfin, il a aidé à l'image de la F1. Un pilote de couleur, c'est pas mal quand on est un peu taxé de sport de riches blancs occidentaux. Netflix a rajeuni, a même féminisé le public de la F1. Donc, l'Afrique, ça peut être aussi une étape pour améliorer, peut-être dépoussiérer, continuer à dépoussiérer l'image de la Formule 1.
Oui, complètement. Mais effectivement, dernièrement, le Drive to Survive sur Netflix a beaucoup participé à acquérir une nouvelle audience, plutôt un public jeune, naturellement. Mais la notoriété de la F1 aujourd'hui est vraiment en plein boom, en pleine explosion. Le Covid, malheureusement, qui a mis un petit peu le sport mondial un petit peu à l'arrêt, a quand même aussi, entre guillemets, participé à relancer toutes ces activités-là, puisque depuis cette pandémie, en fait, on n'a jamais vu autant de fréquentation sur les circuits. Nous avons plusieurs circuits qui ont dépassé la barre symbolique des 400 000 spectateurs accueillis sur 3 jours. On l'a vu au Texas, on l'a vu à Melbourne en Australie, on le voit à Silverstone aujourd'hui qui détient le record absolu avec 480 000 personnes sur 3 jours. Donc c'est quand même assez incroyable. Spa l'an dernier a fait des chiffres de 380 000 personnes et il vise cette année plus de 400 000 publics aussi sur 3 jours. Donc on voit quand même qu'il y a un engouement qui est là. Et puis même l'image globale de la F1, notamment avec l'implication de tous les pilotes. Les pilotes ont rajeuni également, ce qui permet aux jeunes publics de mieux s'identifier. Bien sûr, aujourd'hui, sur la grille, vous avez des Sainz, Norris, Piastri, Verstappen n'a que 26 ans également, Ocon, Gasly, nos Français. Donc on a beaucoup, beaucoup de jeunes pilotes qui, finalement, si on regarde un petit peu la F1 des années 90, tranche littéralement avec des Berger, des Mansell, des Prost, voilà, ça a beaucoup rajeuni.
C'était plus vieille école à l'époque. Et puis on notera aussi également.
Il y avait John Watson encore pire.
Quatre grands prix dans le golf, ce qui nous rappelle une situation qu'on connaît dans le foot, celle du soft power, qui montre peut-être le pouvoir d'image de la F1. Ouais. Un peu de musique et je vous redonne la parole bientôt, Patrick Juillard.
Like a flash, you can miss him going by. No
reconnu la voix?
J'ai reconnu, mais j'ai pas mis un nom dessus.
Alors, il était plus connu quand il jouait avec trois de ses copains dans les années 60. George Harrison, ah, Faster, 1979. Donc, George Harrison des Beatles, qui aimait beaucoup la Formule 1. Et la Formule 1, c'est un peu comme le rock, une passion anglaise d'après la Seconde Guerre mondiale, surtout pour les baby boomers des années 60-70, période de prospérité, d'explosion de la pop culture, comme on dit. Il n'y a pas que les musiciens qui ont admiré les As du Volant. Le cinéma s'est bien sûr emparé de cette mythologie en filmant la voiture, les courses de voitures. James Bond, Steve McQueen dans sa Ford Mustang, dans Bullitt. Et puis, on s'est emparé aussi du côté du 7e art des courses automobiles. Steve McQueen toujours, il joue dans Le Mans, le film sur les fameuses 24 heures, toujours dans les années 60. Grand Prix de John Frankenheimer, dont on a entendu la bande-annonce tout à l'heure. C'était votre choix de film sur la F1, Gaël Angleviel. Le cinéma, ça joue une part importante dans votre passion pour la F1. Ça complète bien.
Ah oui, complètement. C'est ce qui permet aussi de mettre un petit peu le pied à l'étrier. Quand on voit sur le petit écran les exploits que peuvent faire les pilotes, on a envie d'en savoir plus, d'en découvrir plus, d'aller sur les circuits aussi, évidemment. On a évoqué ce film Grand Prix de 1966 de John Frankenheimer, qui est absolument incroyable. Il dure 3 heures, ce film, et puis c'est vraiment la F1 des années 60, celle qu'on appelait encore les cigares sur roues. C'est vraiment une autre époque, mais ce film est proprement incroyable. Il faut absolument que vos auditeurs puissent le voir ou le revoir si c'est déjà fait. Mais oui, effectivement, le cinéma permet aussi un petit peu de se projeter dans l'univers qu'est les sports automobiles de toute discipline. On parle de Formule 1, mais il y a le rallye, l'endurance, le GT, il y a plein de catégories qui sont absolument incroyables à suivre, mais ça fait partie effectivement de la passion. On s'alimente de tout ce qu'on peut. On aime lire, on aime regarder des films ou des séries et les événements sportifs, les Grands Prix quand ils sont à l'écran. Donc voilà, on prend tout ce qui est possible quand c'est disponible.
Mais c'est vrai que la F1, un peu comme la boxe, grâce au cinéma, peut vivre à travers d'autres médiums. C'est peut-être un peu moins le cas d'autres grands sports, comme le ballon rond, le football, par exemple, Patrick Juin.
Il y a un avantage pour la F1, c'est que ce n'est pas un sport collectif. Pour filmer du foot, il faut filmer une équipe et 22 joueurs en mouvement autour d'un
course,
ballon.
La course, ce n'est pas évident. C'est le récit essentiel.
Et puis surtout, le football, je pense qu'on est limité par l'habitude de la manière dont c'est filmé par la télévision. Et quand le football est filmé différemment, on trouve forcément que c'est moins bien. L'automobile, avec une multitude de caméras, au contraire, ça peut devenir mieux et plus spectaculaire. On peut accentuer l'effet vitesse au cinéma qu'on a du mal parfois à voir sur un écran plat.
On a souvent critiqué la retransmission télé de la F1. C'est mieux au cinéma.
Là, quand on a déjà eu la chance d'assister à un Grand Prix depuis des tribunes et non pas devant sa télévision, on se rend compte de la vitesse vertigineuse des voitures que parfois on peut oublier devant sa télé. Et le cinéma redonne cette sensation de vitesse. Et puis, la Formule 1, c'est un sport avec de multiples dimensions technologiques, humaines et parfois politiques. Et tout ça donne une matrice cinématographique très forte, peut-être plus que pour le foot.
Vous avez choisi un film de 1976, Paul Bartel, le réalisateur, David Carradine, entre autres,
et Bill, son frère.
De Kill Bill, ouais, avec son frère. Ça s'appelle Cannonball, 1976.
Cannonball. An old cannonball is going to be passing you like you weren't even there. Anyone can enter and anything goes in a squealing, smashing outlaw race across America.
Ça sent les 70s. C'est pas sur la F1 là.
Non.
Parce que c'est vrai que, comme le disait Gaël Angleviel, c'est un peu tous les sports mécaniques qui peuvent être parfaitement sublimés par le cinéma.
Oui, là, ce qui est amusant, c'est que ce film sort la course automobile des circuits et imagine une course clandestine à travers les États-Unis, avec des pilotes tous un petit peu allumés, tous à la recherche un peu d'un rêve perdu. Et le film est très, très spectaculaire, il y a sans cesse de l'action, il y a un petit côté anarchisant, on se moque gentiment de la police et des autorités, donc tout ça est plutôt sympa et ça rappelle certains westerns, c'est une sorte de western mécanique sur les chapeaux de roue.
Voilà, donc très, très américain. La voiture, c'est très américain. Donc c'est aussi peut-être ce qui explique le succès grâce à Hollywood.
Et c'est une série, il y a aussi l'équipé du Cannonball avec Burt Reynolds et Roger Moore avec la fameuse Aston Martin de Goldfinger. Donc ça aussi, c'est un film culte pour amateurs d'automobile.
Et ça refait le lien, Roger Moore, avec James Bond. Le choix d'Emmanuel Touzeau, c'est un film plus récent, 2013, mais qui parle de l'année 1976. Et ça aussi, c'est intéressant. Rush, bien sûr, de Ron Howard.
James, non?
Oui.
C'est qui?
Niki Lauda, il vient de signer
chez... Eh oui, la rivalité de James, James Hunt avec Niki Lauda, 1976, rivalité sportive, et puis l'incendie de la Ferrari de Niki Lauda, grièvement blessé, enfermé dans son cockpit, Emmanuel Touzeau. Ce film, c'est peut-être la référence moderne des films sur les courses automobiles, avec Le Mans 66, sorti en 2019, là, qui est plutôt sur la rivalité Ford Ferrari, ouais, dans les 24 heures du Mans. Pourquoi ce choix? C'est un classique, c'est devenu un classique.
Ouais, c'est un film qui a vraiment qui bénéficie un peu plus de la technologie par rapport aux autres choix qu'on aurait pu avoir, parce que c'est vrai que c'est, il y a eu vraiment beaucoup de choses faites visuellement pour en faire un très beau film. Les scènes de course sont chouettes. Bon, c'est un peu romancé évidemment parce que ça reste un film, mais il y a énormément de points qui sont repris de l'histoire. Et puis la saison 76, c'est un peu une saison un peu unique et un peu folle dans l'histoire de la F1, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a l'accident de Lauda, donc avec l'effort humain de revenir à la compétition en étant blessé. Il y a beaucoup de politique, parce qu'il y avait eu des problèmes techniques sur les voitures. Il y avait eu une rivalité entre deux pilotes qui est quand même restée vraiment dans l'histoire de la F1. Et tout ça est vraiment bien reproduit dans le film.
Et Emmanuel
les
Touzeau.
Acteurs sont excellents. Oui,
ça parle, je rebondis sur ce que vous dites, parce que là j'ai cité deux films, donc là on parle de Rush et aussi Le Mans 66 qui parle,
oui,
des années 60-70, c'est-à-dire le moment où on fait des films sur la voiture, mais apparemment une période un peu âge d'or pour globalement une discipline, la F1, ou le sport automobile globalement, c'est quelque chose qui vient de l'après-Seconde Guerre mondiale, donc on imagine les années 60-70 comme un âge d'or, et puis on raconte ça vraiment avec quelque chose comme si c'était des gladiateurs qui risquaient leur vie, c'est ce qu'on voit dans Rush, et même dans Le Mans 66, il y a vraiment une nostalgie par rapport à une certaine époque, les années 60-70, voire les années 50, parce que Ferrari, le film qui va sortir, il parle de la fin des années 50.
Alors en fait, je sais pas si c'est une nostalgie, mais forcément, cette époque était une époque un peu vraiment différente de la F1. Après, la F1 était de plus en plus réglementée. Alors, c'est pour le mieux aussi, parce que la sécurité a été un vrai sujet. Mais il y avait vraiment tellement pas de réglementation, et c'était tellement une F1 plus artisanale et tout ça, que les histoires humaines étaient peut-être un peu plus mises en avant. Et moi, j'ai qu'à titre personnel, c'est aussi parce que c'est une époque où les F1, enfin, je les trouve magnifiques, parce qu'il n'y avait pas trop de réglementation, donc toutes les voitures étaient très différentes, mais avec des formes assez incroyables et tout ça. Donc,
oui, dans les années 60, c'était une espèce de long tube, on dirait pardon pour la comparaison, ouais, mais des casous quasiment géants. Enfin, très très stylé.
On est passé à la fin des années 60, si je ne me trompe pas, du moteur avant au moteur arrière. Avec l'époque James Hunt, on est déjà en moteur arrière.
Donc il y a un charme vintage,
ouais,
comme on dit.
Il y a même eu l'époque des F1 à 6 roues, les Tyrrell à 6 roues. Bon, ça, c'est l'époque héroïque.
Ça, justement, en 76, l'année de Rush, c'était l'année où il y avait les Tyrrell à 6 roues. Ouais.
Donc il y a quand même une certaine nostalgie, ou en tout cas, un peu comme dans beaucoup d'aspects de la culture populaire, un retour vers les choses un peu anciennes.
Et on le voit,
qui constitue un âge d'or.
Et on le voit sur le rallye avec le film Lancia contre Audi, qui est sorti
récemment. Et puis donc arrive le film sur Ferrari, signé Michael Mann, donc là, des plus grands réalisateurs américains encore en vie, Heat, Collateral. Bon, là, vous avez l'embarras du choix. Un peu de sa bande-annonce. On ne va pas parler de Netflix, qui finalement est peut-être la nouvelle manière dont on filme la F1. On n'entendra pas la bande-annonce du Ferrari de Michael Mann. On va bientôt se quitter dans Mondial Sport. Ce n'est pas grave, vous pouvez aller voir le film, il sort dans quelques jours sur Prime Video. On va remercier Emmanuel Touzeau, Gaël Angleviel, d'avoir été avec nous. Merci à vous également,
merci.
Patrick
merci
Juillard.
Beaucoup.
Et puis Mondial Sport reviendra le week-end prochain, bien sûr. En attendant, Patrick, on vous retrouve demain sur RFI dans Radio Foot International. Merci Quentin Moulin. Et tout de suite, un nouveau journal international.